Je pense que vraiment le Saint-Esprit est parmi nous ce matin. Et j'ai vraiment la conviction que le Seigneur va faire des choses nouvelles. Il est dans sa parole, dans Ésaïe 43, au verset 19. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Et je suis vraiment convaincu que le Seigneur va faire des choses nouvelles ici, dans notre église de Wavrin. Je suis vraiment convaincu qu'il va faire toutes choses nouvelles. Mais les choses nouvelles passeront par le cœur de chacun. D'abord, le Seigneur va toucher nos cœurs, changer nos cœurs, apporter des choses nouvelles dans le cœur de chacun. Amen. Est-ce que vous y croyez?
Oui.
Amen. J'entends pas. Amen. Amen. Nous allons commencer par quelque chose de nouveau ce matin. Nous allons prier pour les offrandes. Mais nous allons vraiment être en accord avec la parole de Dieu. Et je vous invite à prendre 2 Corinthiens, chapitre 9, au verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Avec joie. Amen. Amen. Seigneur, c'est avec joie que nous te présentons ces offrandes. Seigneur, nous te demandons de les bénir. Seigneur, mais nous te demandons aussi la sagesse pour que nous puissions les utiliser selon ta volonté. Seigneur, ta volonté, c'est l'avènement de ton royaume. Et aussi ta volonté, c'est la vision que tu as donnée pour ton église de Wavrin. Nous voulons les utiliser pour aimer. Nous voulons les utiliser pour libérer, pour guider et pour envoyer. Amen. Dans le nom de ton Fils Jésus et par le Saint-Esprit que tu as mis dans le cœur de chacun de tes enfants. Amen. Je voudrais aussi, on fait des choses nouvelles. Je voudrais qu'on puisse se lever. On pourrait tendre les mains vers Robert. Et nous allons bénir Robert qui va nous amener la parole ce matin. Seigneur, nous te présentons Robert. Tu as mis une onction sur son cœur. Tu as un message pour nous qui va nous nourrir, qui va nous bénir. Seigneur, que ton onction soit sur notre frère Robert. Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Voilà, il y a quelques années, quand je sortais avec Sylviane, j'ai fait un grand pas de foi et je suis allé en Suisse voir ma belle-mère future. Hein. Oh là là. Hein. Et donc elle me regardait, quand même c'est un anglais. C'était quand même spécial. Et moi j'ai essayé d'être gentil, voilà, le chrétien, l'homme gentil, sérieux. Mais j'avais laissé traîner mon passeport. Et un jour, elle passait par mon passeport et elle a ouvert. Elle regardait la photo. Et elle criait « Ah !» parce qu'elle est tombée sur une photo de moi quand j'avais 16 ans. Et à 16 ans, on est bête. Et donc à 16 ans, on prend la photo de passeport avec des cheveux jusqu'ici, avec boucle d'oreille, avec le regard. Et donc elle crie, elle poussait un cri en regardant mon passeport. Elle a dit, mais quelle horreur. Et j'ai dit, mais c'était mon passé, j'ai changé, j'ai coupé mes cheveux. Vous savez, il n'y avait pas Pascal à l'époque, hein. Je ne pouvais pas aller voir Pascal à l'époque. Donc vraiment, j'étais hippie, baba cool à l'époque. Et après, et donc voilà, j'ai le passeport britannique. Hein. Ça c'est celui après, hein. Je suis plus gentil en celui-là. Et Mais quand je regarde, c'est peut-être, si on a le Brexit, peut-être on va revenir au passeport britannique. Hein. Maintenant, j'ai un passeport européen. Ah, on verra. Hein. Et donc, sur ce passeport, je ne sais pas, ils ne font plus, hein, mais dans le passé, il marquait « signes particuliers hein, ».« Distinguishing marks », les signes qui nous distinguent. Et donc... je ne sais pas si vous avez jamais rempli un passeport en marquant signe particulier. Hein, je ne sais pas si... Qu'est-ce que vous marquerez pour vous-même, hein, parce que c'est trop facile pour moi. Quels sont mes signes? Moi, j'ai... Quels sont les signes? Les yeux bleus. Non, on a déjà les yeux. Hein. Il y a un parti des yeux. Hein, et il y a taille. Hein. Qu'est-ce... Poilu, je ne sais pas. Voilà, oh, voilà. Mais est-ce que ça se voit? Et ça, c'était une question que Moïse se posait en Exode 33. Il y avait une grande question. Moïse, il devait diriger un peuple. Et il dit, mais ce peuple... Ils sont comme tout le monde, quand même. Il y avait des grands, les petits, les gentils, les pas gentils, les soumis, les rebelles. Il y avait tout un ramassis de personnes. Et ils étaient en voyage, ils devaient arriver à la terre promise. Et Moïse, à un moment donné, il a besoin de quelque chose. Il a vraiment besoin d'être accompagné par Dieu. Et donc, en verset 16, il pose une question. Et... il pose une bonne question. Il dit, mais comment est-ce que nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre? Qu'est-ce qui va nous différencier des autres? Qu'est-ce qui va nous différencier? Et je pense que ce n'est pas juste une question pour Moïse. Hein, c'est Exode 33 et verset 16. Qu'est-ce qui nous sépare des autres? C'est vrai, si j'avais mon passeport, signe particulier, enfant de Dieu, voilà. Mais comment est-ce qu'on va voir ça? Est-ce que quand je suis dans ma famille, au travail, même, est-ce que je suis comme tous les autres? Qu'est-ce qui va me distinguer des autres? Et pour Moïse, il a quand même trouvé une réponse. Et le Seigneur lui a donné la présence. Bon, il y a deux manières de traduire. En verset 15, il y a la réponse. Il dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Mais ça, c'est une mauvaise traduction. Hein, verset 15, Exode 33. Je ne sais pas s'il y a d'autres traductions parmi vous. Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. Vous avez tout ça. Si tu ne marches pas, il n'y a pas d'autre traduction. Ce que c'est, la traduction, c'est si ta présence n'est pas avec nous. Si ta présence n'est pas avec nous. Et le mot pour présence, c'est panim en hébreu. Et ça nous fait penser peut-être à Peniel. Peniel, ça veut dire la face de Dieu. Panim. La face de Dieu. Voilà, Seigneur, on doit voir ta face avec nous. On doit voir ta présence avec nous. C'est un peu un mystère, non? Un peu un mystère. Qu'est-ce qui fait que la présence de Dieu sur moi? Est-ce que les gens remarquent la présence de Dieu sur ma vie? Et ça, c'était la grande question pour Moïse. Hein, il était là et... Il priait, verset 13. Hein, c'est une belle prière aussi, 33-13, Exode 33-13. Maintenant, si j'ai obtenu ta faveur, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et j'obtiendrai ainsi ta faveur. C'est une belle prière, non? On peut faire la prière de Moïse. Il y a beaucoup de prières dans la Bible. On peut prier, Seigneur, fais-moi connaître tes voies. Fais-moi connaître tes voies. Et je veux te connaître, Seigneur. Je veux obtenir ta faveur sur ma vie. la faveur de Dieu sur ma vie. Et donc Dieu dit, voilà, Moïse, ma présence sera avec toi. Et comme ça, tu seras un peuple distingué parmi d'autres peuples. Ma présence te distingue. Ma présence vous distingue parmi toutes les autres races sur la terre. Et après, verset 6, c'est important, je vous donne un petit devoir, si vous voulez apprendre le verset 6 d'Exode 34, ça va changer votre vie. Si vous voulez apprendre par cœur ce verset, parce que c'est la présence de Dieu. Ici, vous avez la face de Dieu. Dieu a dit, Moïse a dit, fais-moi voir ta face. Et Dieu dit, oh, mais tu demandes quelque chose, tu peux me voir de derrière. Mais il y a une présence qui passe devant Moïse, une présence. Et cette présence se dévoile en verset 6. Si vous voulez dire, mais moi je suis chrétien, mais qui est ce Dieu? Bon, Jésus-Christ, on connaît Jésus, voilà, c'est lui qui est l'image de Dieu. Mais même dans l'Ancien Testament, Dieu, c'était un Dieu qui se révélait à son peuple. Et Jésus n'était pas juste inventé dans le Nouveau Testament. Il était toujours là. On voit quelquefois les apparitions de Jésus, on appelle ça théologiquement des théophanes. Où Jésus, il est là, et quand Moïse parle face à face avec Dieu, et après il ne peut pas voir sa face, il y a une sorte de paradoxe, mais ce n'est pas un paradoxe. Il y a des moments quand Dieu parle à l'homme, il est obligé de se mettre en forme humaine, parce que si on voit ce feu qui consomme, qui peut se tenir dans la présence de Dieu? Et donc, Dieu, il passe devant Moïse. Et peut-être ce matin, peut-être nous, on est cachés comme Moïse dans le rocher. Et si Dieu passait devant nous? Mais il passe devant nous dans la Bible maintenant. On a le récit. Tu sais, c'est comme si Moïse, il a sorti son iPhone, clic, il a pris Dieu en photo et il a mis dans la Bible. Il dit, voilà, je mets sur Facebook maintenant. Je mets dans la Bible Facebook et vous allez voir Dieu. Vous allez voir comment il est. Et après, caché dans le rocher, les gens y voient Dieu. Pas caché derrière les liturgies, les machins. Parce que quelquefois, les gens, ils pensent que Dieu, il est méchant. C'est pas que si les gens sont élevés avec une idée que Dieu est méchant, qu'il est là, paf, je vais vous punir. Je vais vous punir. Et après, oh, pardonne-moi. Tu vois, on a tellement cette idée qu'il est là pour paf, paf, paf. Mais regarde, c'est déjà l'Ancien Testament, d'accord? Et Dieu, il se révèle. Verset 6, 34. L'Éternel passa devant lui en proclamant. L'Éternel, déjà là, Yahweh, c'est son nom. L'Éternel, le Je suis. C'est le tétragrammaton, on dit en langue théologique. Yahweh, déjà si vous commencez avec ça, commençons votre matin en disant Yahweh, celui qui est, c'est très dur, c'est Jacques qui m'a appris ça un jour, de vivre dans le présent. C'est très dur de vivre dans le présent, parce que le présent est déjà le passé. C'est dur de le saisir. Ah, c'est déjà passé, j'ai saisi mon présent, c'est le passé. Hein, et après je pense à l'avenir. Mais il y a un seul qui maîtrise le temps. C'est Yahweh, et c'est pour ça qu'on le nomme Je suis. Il est continuellement présent. Il est continuellement la vie. Yahweh, l'Éternel. Écoute maintenant, il se dévoile. Dieu compatissant. Oh. Le premier mot qu'il dit, c'est Je suis compatissant. Je suis miséricordieux. Oh, alléluia. Et vous savez, ça va encore plus loin. Parce que le mot en hébreu pour la compassion ici, c'est rachem. Et rachem, c'est la matrice d'une femme. C'est là. Et vous savez, une femme qui aime son gamin, tu sais, elle donne naissance déjà. Il y a quelque chose de très physique. Ah, bon, je ne l'ai jamais expérimenté, mais pour toutes les femmes, vous savez, on est attaché. Il y a quelque chose, et cet enfant grandit, il y a quelque chose dans nos tripes. Et donc il y a une compassion qui sort des tripes de Dieu. Et même Dieu, il est au-delà de est-ce qu'il est homme, femme et tout ça. Il englobe tout. Et je suis très content que Dieu, il a une sorte de matrice de compassion. Bien sûr, c'est des images d'hommes, on est limité par notre langage. Mais si la Bible nous donne ça, ça veut dire que, comme un enfant qui... Tu sais, il y a les hommes dans la guerre, qui sont dans les pires tragédies, qui étaient dans les tranchées dans le nord de la France, et quand les obus éclataient autour d'eux, et ils allaient mourir, ils crient « Maman, maman, maman ». Même le gars le plus costaud, il dit « Maman », parce que l'homme a besoin de compassion. Et je dirais, cette maman qui est là dans les pires moments est Dieu. Je sais qu'il est Dieu, le Père, je ne mets pas en question. Mais Dieu, il a la compassion qui sort de ses tripes. Et c'est comme il se dévoile devant Moïse. Il dit, compatissant, et après, et qui fait grâce. La grâce n'est pas l'invention du Nouveau Testament, mes amis. La grâce est là, dès la fondation du monde. Dieu, il est rempli de grâce. Et ce mot-là, c'est comme un mendiant qui demande une faveur. Allez, je peux pas payer. Allez, je te fais grâce. C'est ça le Dieu. Qui peut payer? Qui est parfait? Qui peut dire j'ai marché dans la perfection? Personne. Et donc Dieu nous fait grâce à tout le monde. Il est un Dieu compatissant et qui fait grâce. Et après, lent à la colère. Oh, merci Seigneur. Il n'est pas là aux aguets. Allez, je vais le cogner, je vais le cogner. Je vais cogner le pasteur Rive parce que voilà, je vais voir. Hier, il a regardé le rugby. Hier, il a passé toute la journée. Il a énervé sa femme qui voulait qu'il sorte avec elle. Mais là, il était devant l'écran de la télé. Et il criait pour ses Anglais contre les Gallois. Et il criait à bas les Gallois. Allez, allez, Angleterre. Il était très nationaliste. Quelle horreur, quelle horreur. Mais je suis qui je suis. Et je suis à l'aise avec Dieu. Il est lent à la colère. Et après, si le Saint-Esprit me convainc de péché, il me dit quand même, Robert. Je dis, ah oui, d'accord, Seigneur, j'aurais pu mieux agir. Mais je ne suis pas crispé, vivant dans la crainte. Mais il est lent à la colère. Il y a quelque chose de très beau là-dedans aussi, parce que, tu sais, l'hébreu, c'est une langue, ce qu'on appelle une langue concrète. Ce n'est pas une langue abstraite. Ils utilisent beaucoup d'images. Et donc, lent à la colère, c'est abstrait. Parce que nous, latin et tout ça, c'est abstrait. Donc, on dit lent à la colère, on a l'habitude de ça, on comprend. Mais en hébreu, il utilise des images. Et lent à la colère, le mot lent, ça vient de d'anaf. D'anaf. Et anaf, c'est la narine. D'accord, c'est intéressant, hein, la narine. Et l'image, c'est d'un cheval qui, quand un cheval est en colère, et on dit même en français, la moutarde monte au nez. Tu vois, c'est exactement ça. Et on dit que Dieu, c'est lent que la moutarde monte à son nez. Ça serait une bonne traduction, là. Mais ça veut dire, moi, ça m'a réjoui quand j'ai trouvé ça, que littéralement, il dit ici, Dieu, il est large de narine. Large de narine. Et après, je dis, ah, mais ça veut dire qu'il a un grand nez. Hein? Quand Dieu est large de narine, il a un grand nez. Et je dis, mais Seigneur, je suis fait à l'image de Dieu. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah. Désolé, les Coréens, vous n'êtes pas à l'image de Dieu. Large de narine. Lent à la colère. Il est lent à la colère. Et après, ça, c'est magnifique. Déjà, on a. Comme je dis, si vous apprenez ces choses, ça va vous montrer Dieu, ça va vous imprégner de la personne de Dieu. Lent à la colère, riche, riche en bienveillance. Riche en bienveillance. On peut traduire riche, c'est un autre mot, ça veut dire il abonde en bienveillance. Et le mot là, riche, c'est rab, rab. R-A-B. Et en français, quelqu'un dit, est-ce qu'il y a du rab? Est-ce qu'il y a du rab? Et je dis, avec Dieu, il y a toujours du rab. Et le rab, c'est l'abondance de son hesed, son amour indestructible, hesed. Et donc, tu sais, Dieu, Quand il te sert son amour et sa grâce, c'est pas des petites portions. C'est pas si tu vas manger en Angleterre, tu vas rester à ta faim peut-être, parce que tu auras des petites portions. Et non, c'est tout. Et avec Dieu, quand tu entres vers Dieu, avec dans la présence de Dieu, tu n'as pas des petites portions d'amour. Il y a toujours du rab. Et si tu as faim, tu peux aller. Il va toujours, oui, je t'aime, je t'aime. Il y a toujours une abondance de hesed, de bienveillance. C'est pas juste limité. Ah, si mon voisin, il est plus aimé que moi par Dieu. Non, 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 non. Il y a du rab pour tout le monde. Il est riche en bienveillance et en fidélité. T'abandonne jamais. Riche en fidélité, qui conserve sa bienveillance. Encore, bienveillance, bienveillance. Hesed, c'est le mot. J'aime bien ce mot hébreu. Ça veut dire un amour indestructible, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations. Et donc, si pour 2 semaines j'étais loin de Dieu, si pour 6 mois j'étais loin de Dieu, est-ce que ces 6 mois vont me disqualifier pour toujours? Non! Jusqu'à 1000 générations, il conserve! 1000 générations! Et là, le mot génération n'est pas utilisé. Ça, c'est un ajout dans nos traductions. Ils ont des raisons pour faire ça, sans doute. Mais littéralement, jusqu'à 1000. Et c'est Aleph, c'est le premier mot de l'alphabet hébreu, parce que l'alphabet, c'est aussi les numéros. Et c'est comme, tu sais, quand on fait Aleph, c'est comme un bœuf. C'est les 2 cornes et après la tête de l'animal. Hein, c'est très concret, l'hébreu. Et pour moi, quand je vois ça, je dis, quelquefois, il y a les églises qui parlent toujours du jugement, de l'enfer, de la perdition, la punition et tout ça. Bon, je vais y arriver. Mais on va mettre les choses en proportion. Il dit, Dieu, il aime jusqu'à 1000. Jusqu'à 1000. Jusqu'à l'alpha et l'oméga. Il aime, il aime, il aime, il est comme ça. Jusqu'à 1000. Et il dit, et qui pardonne. Cette force de pardon qui sort de la croix. Qui sort du cœur de Dieu, l'agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde. Tu sais, ce sang de Christ s'est manifesté dans l'espace et le temps il y a 2000 ans. Mais lui, dans le cœur de Dieu, ce rachat, cette rédemption était toujours préparée en Jésus et c'était préparé dans tous ces agneaux que les Israélites ont sacrifiés chaque jour. Mais ça, c'est le pardon a toujours été dans le cœur de Dieu, de pardonner à l'humanité. Et d'avoir la victoire contre le péché. Et regarde ce qu'il dit maintenant, ça m'encourage quand même. Il dit qu'il pardonne, c'est le verset 7 aussi, qu'il pardonne la faute, le crime et le péché. Amen. Il pardonne ta faute, il pardonne le crime, il pardonne ton crime et il pardonne ton péché. Alléluia. Jusqu'à 1000. Quelle abondance. Dieu, le cœur de Dieu qui dit, je veux pardonner, laisse-moi te pardonner, laisse-moi te sauver, laisse-moi t'embrasser, laisse-moi t'aimer comme une maman aime son enfant. Mais il est juste aussi. Dieu est juste. Et c'est juste que ce qui est injuste soit aussi puni. Et qui ne tient pas le coupable pour innocent. Et il dit, il punit la faute des pères sur les fils et sur les petites-filles jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais d'un côté, 3 et 4 générations face à 1000. Quand même, il faut équilibrer les... Oui, Dieu punit. Il y aura des comptes à rendre. Mais avant de trop coller la culpabilité sur les gens, il faut coller la compassion, le pardon, la possibilité de connaître Dieu. Bien sûr, il ne laisse pas le coupable innocent. Et c'est juste. Moi, je ne veux pas vivre dans l'éternité avec l'injustice. Ça ne serait pas le paradis si on laisse passer les méchants. Mais il laisse un temps énorme de grâce. Et nous sommes dans ce temps. Il faut saisir ça pour nous-mêmes, pour nos enfants, même pour ceux qui ne sont pas encore dans l'Église, pour ceux qui vivent dans leurs crimes, dans leurs fautes. Parce que Dieu désire, plus que nous, pardonner. Et c'est ça le cœur de Dieu. Donc je vous encourage à méditer, à apprendre ce verset-là. Ça m'a aidé depuis un mois. Je médite ça chaque matin, je me lève et je dis, oh, l'Éternel, oh. Et déjà avant d'arriver à la fin, tu vas dire, oh, merci Seigneur. Et bien sûr, tout ça, cette parole s'est faite chair en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus montre ça, mais quelquefois c'est bien d'avoir une autre perspective sur Jésus depuis l'Ancien Testament et de voir qu'il n'y a pas de séparation, il n'y a pas un Dieu de colère et un petit Jésus gentil. Tu vois, quelquefois les gens pensent ça, il y a un Dieu de colère, oh le Père, et un petit Jésus gentil. Mais non, c'est pas ça. Il y a une unité d'amour, de hesed, une unité de victoire. Alléluia. Allez, on revient à Moïse. Parce que Moïse était transformé par sa rencontre avec Dieu. Et si nous pouvons être transformés, c'est cette révélation de Dieu nous transforme. Ça nous change. Et donc, regarde verset 11 de 33, Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. Oh, j'aime bien ça. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ça, c'est déjà dans l'Ancien Testament. Qui parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Est-ce que c'est mon expérience? Ah, quelquefois, je me suis lancé ce défi. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de parler avec Dieu comme ça? Mais oui. Et d'être à l'aise. Et moi, je parle mieux avec Dieu quand je fais un jogging. Quelquefois, quand je suis à l'église, c'est trop formel. Mais bon, ça va. On peut entendre par une prédication, la louange, j'entends Dieu. Mais vraiment être pote avec Dieu. Et c'est vrai, il y a un respect là-dedans, je ne veux pas le diminuer. Mais quand même, il parle. Moi j'ai un grand problème quelquefois parce que j'aime bien les blagues, j'aime bien l'humour, et quelquefois je pense que Dieu me suscite des blagues. Quelquefois je dis, comme avec un pote, tu sais, quand tu étais avec un ami, mais je dis, oh, mais si je dis ça, c'est pas très religieux, ça, c'est pas très pastoral là, mais je pense que, je sais pas, je veux pas aller trop loin, mais je pense que quelquefois Dieu il est assez cool. Et vous seriez étonné de voir jusqu'où vous pouvez lui parler. Des choses très intimes. Il ne parle pas aux autres. Hein. Peut-être il parle à Jésus et le Saint-Esprit, mais ça c'est la Trinité, donc ça va. Mais on peut lui parler en disant, mais Seigneur, j'ai un problème avec ça. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu penses? Même qui vous donne des idées pour l'avenir, qui vous console, mais pas juste les besoins, juste la communion. Ah, merci pour ta création, Seigneur. Face à face. Panim encore. Panim. Et donc, je dirais, il y a trois face à face. Déjà, on a fait la face à face avec la parole. Dieu compatissant, fidèle, lent à la colère. Allez, ça, c'est une face à face de voir Dieu dans sa parole. De dire, voilà, c'est ma face à face chaque matin. Dieu, moi. Ça, c'est la face de Dieu. Ce n'est pas juste l'encre, le papier. Ça peut être une face à face de s'engager avec la parole. Et même si vous restez avec ce que j'ai donné ou d'autres versets que vous aimez bien, commencez à faire des face à face avec Dieu dans sa parole. Il y a une face à face comme ça. Et il y a des face à face dans la prière. Juste où on est comme Moïse. Il n'avait pas forcément une parole parce qu'il était en train de l'écrire. Et donc, quand lui, il était face à face, c'était sans un livre. Donc, ça vous encourage, hein, pour les gens qui n'ont pas une grande culture biblique, c'est pas grave. Hein. On peut apprendre ça, mais on peut être face à face avec Dieu juste comme ça. Et il allait dans l'attente de la rencontre. Et donc, même on peut aller dans un endroit où on sent Dieu. On peut juste parler avec lui. Et je pense qu'il y a une autre face, c'est la nature. La création. C'est comme on regarde la face de Dieu cachée, les perfections invisibles de Dieu se voient fort bien dans la création, il dit en Romains. Les perfections invisibles de Dieu, face à face avec la création. Et après, face à face avec l'autre. Quand tu vis l'intimité avec quelqu'un d'autre, je dirais homme-femme, face à face, dans l'intimité. Dans l'intimité, face à face, Dieu a fait le cadeau de l'amour à l'homme et à la femme pour avoir une face à face, d'avoir l'honnêteté, d'avoir quelque chose de beau et face à face. Et il a donné l'amitié, il a donné l'amour. L'amour est toujours une face à face avec Dieu. Quand vous aimez quelqu'un d'autre, c'est une face à face avec Dieu. Et ça peut être l'amour érotique, ça peut être l'amour filéo des frères, et ça peut être l'amour agapé. Mais l'amour est toujours une face à face avec Dieu. Alléluia. Ça nous encourage pour les gens qui aiment mais qui sont pas encore dans l'église. Celui qui aime son frère. Là, le grand défi. J'aime mon frère. Face à face. Je vois Dieu dans le visage de mon frère. Waouh. Ça, c'est pas facile. Je vous donne pas des choses faciles. Mais ça nous transforme. Et donc, Moïse, il vivait une face à face. Et cette face à face le transformait. Regarde encore Exode 34 et 29. Tu sais, Moïse, il parlait avec Dieu comme ça. Et en verset 29, au milieu de verset 29, Exode 34, il dit, Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait à la suite de son entretien avec l'Éternel. Waouh! 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 Que son visage rayonnait suite à son entretien. Là, quelquefois, on a des entretiens et notre visage est vachement fermé après. C'est noir après. On a des entretiens dans le monde, pouf, qui nous tuent. Mais l'entretien avec Dieu, ça fait rayonner notre visage. Alléluia. Et c'est ça qui fait de l'évangélisation. On n'a pas besoin de donner un traité. On a besoin de, allez, mon visage est rempli de la présence de Dieu. J'ai fait une face à face. Et c'est ça qui va changer notre entourage. Si on a une tête de... Je vous donne la bonne nouvelle, mais ta tête, ça me parle d'une mauvaise nouvelle. Tu as une tête de mauvaise nouvelle. Tu sais, si on est les gens de bonne nouvelle, il faut avoir une tête de bonne nouvelle, n'est-ce pas? Avoir une tête de bonne nouvelle. Il ne faut pas dire ça à ta femme demain matin. Tu n'as pas une tête de bonne nouvelle. Non, non. Ce n'est pas pour semer la division que je parle ça. Il faut encourager les gens à avoir une tête de bonne nouvelle. Mais c'est ça que Dieu... Si on fait une face-à-face avec Dieu, face-à-face, 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 Moïse était transformé. Il ne savait même pas. Et les Israélites, ils disent, mais Moïse, ça rayonne trop. Ça serait bien dans l'église si on devait dire, mais ta tête, ça rayonne trop. Ça nous éblouit. Oh, allez, tu as été où? Tu as fait un bon bronzing, un bronzage ce matin-là. Et... est-ce que c'est possible pour nous de rayonner? Si Moïse rayonnait, est-ce que c'est possible pour nous de rayonner? Et Moïse rayonnait parce qu'il recevait de l'extérieur, comme ça. Nous, nous rayonnons parce que ça sort de notre intérieur. Ça, c'est la différence. Maintenant, lui, il a dû recevoir comme le soleil touche la peau. Nous, nous avons une sorte de bronzage intérieur. Ça rayonne de l'intérieur. Et il faut ouvrir les vannes. Il faut laisser briller le Saint-Esprit. Et donc je termine, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3, chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. Parce que là, cette petite histoire de Moïse est transformée, est traduite dans le Nouveau Testament. Il n'y a pas de barrière. 2 Corinthiens chapitre 3. Et verset 7. 7, la moitié là. Il dit, Israël ne pouvait fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire, pourtant passagère, de son visage, de son panim. Et il y avait, mais cette gloire était passagère, c'était comme un charbon ardent qu'on retire du feu et après ça diminuait. Mais nous, on n'a pas quelque chose qui diminue. Nous, on a quelque chose qui grandit en nous maintenant. On a plus que Moïse. Et après, verset 13, nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage. Le voile. Le voile. Le voile. Quels sont nos voiles? Voilà. Le voile. Voilà, je veux dire, le voile de l'incrédulité. Je ne crois pas toutes ces histoires. C'est quand même... Mais l'incrédulité, ça voile la gloire. Après, le devoir et la loi religieuse. C'est la loi, paf, tu dois. Et après, ça enlève le rayonnement C'est juste un triste devoir d'aller à l'église, une triste devoir de prier, une triste devoir de lire la Bible. Bien sûr, on peut avoir une maîtrise de soi, une petite discipline de temps en temps, mais ce n'est pas assez. Il faut que ça rayonne, il faut que ce soit le cadeau de Dieu, la grâce. Sinon, ça ne marche pas. Et quelquefois, on est tellement habitué au devoir qu'on rayonne moins. Et le péché, bien sûr. Le péché sur nos vies, c'est un gros voile. Moi, je vois ça, Seigneur. Pourquoi je mets des voiles? Je veux me dévoiler, Seigneur. Et quand on prend la Sainte Cène, quand nous entrons dans la présence de Jésus, ça nous dévoile. Ça nous pardonne, ça nous donne la foi, ça nous donne la vivacité, parce qu'il est vie. Jésus est vie, il est rempli, il est zoé. Le mot grec pour vie, c'est une vie qui jaillit de lui. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec nos voix? Voilà. Verset 14, la fin. Toujours en 2 Corinthiens 3. Il n'est pas enlevé parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Verset 16. Mais lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Alléluia. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, voilà, je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi. J'aime lorsque je me tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Et ce voile, même si vous avez un voile ce matin, ça peut être enlevé. Quelquefois, il y a des choses qui voilent notre cœur. Mais voilà, ce qui est voilé ici, ça se voit ici. Et donc, Seigneur, dévoile mon visage, le pardon. Vous pouvez recevoir ce pardon, même pendant que je prêche, je dis oui, 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 je veux ça, Seigneur. Et après, ça continue, verset 17. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là, je ne veux pas de voile religieux ici. Voilà, on n'est pas religieux, on ne veut pas des voiles, les voiles de... Oh, non, Seigneur, enlève nos voiles, enlève nos voiles. Et là où il est, le Seigneur, là où il y a la liberté. Suivre Christ, c'est la liberté. Libre d'être qui on est. Libre de la peur. Libre du jugement. Libre de développer nos rêves. Libre, là où il y a l'Esprit. C'est le signe de l'Esprit de Dieu, la liberté. Liberté intérieure. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, verset 18, nous tous. Ça, c'est pour terminer. Nous tous, pas juste moi ou l'autre, mais nous tous, c'est ça l'Église, nous tous, qui, le visage dévoilé, reflétant comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Ça va de plus fort. De gloire en gloire, jusqu'à être au ciel pour l'éternité. Jusqu'à être, paf, totalement transformé, transfiguré. Tu es en préparation de gloire. Déjà un peu de gloire et encore plus de gloire, jusqu'à être totalement dans la gloire pour l'éternité. Transformé de gloire en gloire, parce que Dieu, il veut une épouse glorieuse. Tu vas te marier avec un Jésus très, très glorieux. Très, très glorieux. Et donc, il faut que notre gloire soit à l'auteur. Donc c'est pour ça qu'il nous transforme de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Et donc laisse venir le Saint-Esprit dans ta vie, comme Moïse. Et cet Saint-Esprit, il vient, Seigneur, tu es le Dieu compatissant, fidèle, lent à la colère, riche en bienveillance, gardant ta bienveillance. Tu vois, en voyant qui est Jésus, en louant Dieu pour chaque matin de soleil, de givre qu'il nous donne, chaque respiration, d'être reconnaissant. Seigneur, tu me pardonnes, recevant son pardon par notre humilité, par notre repentance, mais pas par crainte d'un côté, pas une fausse crainte, mais un respect bien sûr. Mais voilà Seigneur, tu m'aimes Seigneur, transformé. Et donc, ma présence, c'est ça votre signe particulier. Donc là, je vais prendre mon passeport. Et c'est vrai que dans le passé, j'ai marqué « none ». Je n'ai pas de signe particulier. Mais maintenant, je vais voir « visage rayonnant ». attention, quand je passe par la sécurité, ça va sonner. Visage rayonnant. Visage rayonnant. Visage rayonnant. Et les gens, ils vont dire, mais qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Qu'est-ce que c'est ton secret? C'est les femmes, ça vous embellit un visage rayonnant. Et les messieurs, ça vous rajeunit, tu vois. C'est vrai, je suis étonné. Quelquefois, je prends des selfies jusqu'en... Là, quand je suis comme ça, je dis, oh, mais comme tu es moche, Robert, combien tu es vieux. Et après, je me vois en train de prêcher. Quelquefois, quelqu'un m'a pris en photo. Je dis, oh, mais tu es beau, tu as rajeuni de 20 ans. Et je suis sûr que c'est l'onction de Dieu qui te... Le rayonnement de Dieu qui est là, sur le visage. Et donc, voilà. Signe particulier, je rayonne. J'ai un visage rayonnant. Et c'est ça qui fait la différence. On n'est pas comme les autres. Nous avons l'espérance. Nous avons le pardon. Nous avons la présence de Dieu, le panim de Dieu, le visage de Dieu, la face de Dieu qui est sur nous, sa présence, que sa présence vous accompagne cette semaine et que cette présence vous bénisse. Et Dieu m'a parlé, pour terminer, je courais l'autre jour et je priais pour l'église et il m'a dit, vous savez Robert, c'est pas une personnalité qui gère l'église, mais une présence. Alléluia. Ce n'est pas une question de personnalité, mais c'est une question de présence. Et ça, ça nous libère tous. Ce n'est pas une question de personnalité, telle et telle, telle et telle, mais c'est une question de la présence de Dieu. Et que cette présence de Dieu nous accompagne. Sans toi, Seigneur, on ne peut pas aller. Sans toi, Seigneur, on ne peut pas entrer dans le pays promis. Mais que ta présence nous accompagne. Et que la présence de Dieu vous accompagne et vous transforme cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Amen.